7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on fait rien comme d'habitude, on est certes en direct, mais le patron de l'émission, c'est Tiken Jafakoli. Bonjour Tiken.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous retrouve tout au long de la journée sur l'antenne de RFI avec la sortie de votre 11e album, Le Monde est chaud. Et rien comme d'habitude, ça veut dire que pour vous accueillir, on est en direct du salon Vivatech à Paris, à la porte de Versailles. Vous l'entendez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On est en plus au cœur de l'Africa Tech, où RFI a installé son studio avec toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Tiken Jafakoli, notre sujet aujourd'hui, c'est pas le bureau des plaintes, hein, c'est l'Afrique qui gagne. Et on a invité pour ça des champions à vos côtés, Tiken, qui ont lancé des startups. Awa Traoré, bonjour Awa.
Bonjour.
Awa, vous avez 28 ans, vous êtes malienne, vous êtes cofondatrice de Téliman. C'est un service de taxi-moto à la demande, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est une start-up malienne. Nous sommes basés à Bamako et nous faisons du transport de personnes et de colis par taxi-moto via une application et un call center.
Bon, un peu comme Uber, hein, finalement.
Mieux que Uber, parce qu'on participe à la formation de chauffeurs professionnels sur le terrain.
Awa, Tiken Jafakoli, vous connaissez Téliman, ce service de taxi-moto?
Je ne connaissais pas, mais je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'il y a, tellement d'emboutillage à Bamako. Donc, avoir une moto qui puisse nous accompagner rapidement, faire nos courses.
C'est ça, comment vous vous déplacez, vous, Tiken, à Bamako?
Moi, je me déplace en coccinelle à Bamako.
Bah, c'est bien, vous êtes repérable, hein, comme ça.
En coccinelle, donc c'est vrai que... Je ne prends pas de moto, mais je pense que c'est une idée qui va beaucoup aider les gens qui veulent pas rater de rendez-vous.
Alors avec vous, Awa Traoré, Fabrice Kofi. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
28 ans, ivoirien, vous êtes fondateur d'un logiciel de comptabilité un peu spécial.
Oui, c'est un peu spécial parce qu'il a été, conçu spécialement pour... les commerçants de l'informel en Afrique. Donc en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ces commerçants puissent faire de la comptabilité eux-mêmes, avoir de la traçabilité sur leurs activités et finalement avoir accès au crédit bancaire plus facilement.
C'est-à-dire, y compris si on n'est pas allé beaucoup à l'école et qu'on ne comprend pas grand-chose à la comptabilité, c'est pas simple, c'est ça?
C'est ça.
On lit difficilement, par exemple.
Justement. Et donc l'application a été conçue... En tenant compte de ce niveau faible de scolarité, donc on a intégré des pictogrammes, des dessins qui permettent aux commerçants de tenir sa comptabilité avec des images auxquelles il est habitué.
Ouais, donc ça marche partout, y compris au village.
Oui, bon, pour l'instant, je dirais,
il faut si on a de l'internet.
Oui, si on a internet, mais il faut quand même un minimum de niveau. Je dirais CM2. Si on a fait la classe de CM2, on est capable de gérer.
On va y revenir. C'est l'Afrique qui gagne, ça aussi. Et celui qu'on ne présente plus, 7 milliards de voisins. Vous êtes chez nous régulièrement, Didier Akwété, coach pour les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre. Mais surtout, vous êtes directeur et fondateur d'Afrique Search, cabinet de conseil en ressources humaines. Et vous aussi, vous avez démarré bien avant l'âge de 30 ans.
Ah oui, j'avais 27 ans à l'époque. Des cheveux blonds, pas encore la barbe blanche de Tiken, mais c'est tout comme.
Et à l'époque, l'idée, c'était de réinjecter des hauts potentiels africains, des cadres dans les multinationales sur le continent africain, dans les entreprises africaines.
Exactement.
Et vous étiez le premier à le faire.
Talents. Nous étions les premiers, jadis.
Et ben voilà, en tout cas, ce qu'ils en disent de l'Afrique qui gagne, on écoute tout de suite dans l'émission.
7 milliards de voisins.
Émission spéciale avec Tiken Jafakoli.
7 milliards de voisins.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Pour moi, l'Afrique qui gagne, ce serait vraiment voilà, le visage de cette diaspora qui a envie de s'impliquer. C'est les Africains qui ont envie de s'impliquer dans le concert international et dans le jeu du monde.
C'est la jeunesse qui lutte justement pour que son pays d'origine ou son continent d'origine ne sombre pas dans les extrémismes et ne sombre pas dans la déliquescence. C'est la jeunesse qui pousse son continent vers le haut pour le faire rayonner tout simplement.
C'est une Afrique unie avec une jeunesse, des dirigeants, des personnalités qui ont une même vision, vraiment de faire émerger ce continent et de le rendre meilleur.
Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique bien nourrie, bien instruite, éclairée,
où ces populations vivent heureuses, où ces jeunes sont émancipés, épanouis, engagés et autonomes.
Pour moi, une Afrique qui gagne, c'est une jeunesse qui s'implique. Ce sont des adultes qui écoutent les jeunes, parce qu'on a tendance à pas les écouter en Afrique. On n'a pas de statut quand on est un jeune. Et nous aussi, nous pouvons apporter nos solutions. Donc pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est ça. Ce sont les jeunes qui s'impliquent et les adultes qui écoutent aussi.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et ben voilà ce que disent nos jeunes entrepreneurs quand ils passent dans l'émission. Vous validez une partie de ces visions, Tiken Jafakoli ?
Oui, je pense que l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique, c'est les Africains qui poussent l'Afrique vers le haut. Et je suis entouré ce matin des Africains qui poussent l'Afrique vers le haut. Vous savez, nous avons un continent qui est juste au début. Il y a tout est à faire. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout a été fait en Occident. C'est vrai que maintenant, ils sont dans les nouvelles technologies. Mais chez nous, nous sommes juste au départ. Donc, tout est possible sur ce continent.
Oui, avec une faculté de griller pas mal d'étapes quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il y a des raccourcis que l'Afrique ne se prive pas de prendre. Et heureusement, Didier Akwété.
C'est ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire on fait des bons, comme par exemple le domaine de la
technologie. D'accord, les grenouilles.
De la téléphonie, exactement. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'Afrique. On n'a pas réinventé la lumière, mais à éclairer encore plus loin.
C'est ça. L'Afrique est une grenouille.
C'est le leapfrogging, exactement. On fait des bons incroyables dans plein de domaines. Par exemple, le mobile money. En Afrique, c'est tellement plus développé que dans beaucoup de pays. On a commencé, par exemple, au Kenya, le fameux paiement par mobile au Kenya, c'est une invention qu'il n'y avait pas dans beaucoup de pays en Europe à l'époque.
Oui, et c'est arrivé en France bien après. Et tout de suite, je vous propose des messages tout au long de l'émission d'auditeurs qui ont posté sur WhatsApp.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Ali Hamani Abdel Nasser, Kuncha Fandou, depuis Niamey, Tchikendja, Emmanuel Bastide. Pour moi, l'Afrique qui gagne, il ne faut pas aller loin. Il suffit juste de regarder le Rwanda, de dire bonjour à Paul Kagame. Malgré les guerres, malgré la famine, malgré tout ce que vous connaissez comme injustice que le peuple africain est en train de connaître, sa jeunesse est en train de se réveiller. Tikenja, tu ne seras pas comme Bob Marley qu'on va écouter après ta mort. On va t'écouter maintenant et on va appliquer, on va changer. Les voisins, les voisines, l'Afrique change, l'Afrique gagne.
Tiken Jafakoli. On vous écoute de votre vivant, on va appliquer. Et le Rwanda, vous avez été en concert à...
J'ai été en concert au Rwanda, j'étais vraiment impressionné par la propriété de la ville, impressionné par l'ordre aussi. Parce que voilà, même le chauffeur qui m'a conduit en RDC faisait son travail comme il faut. Donc je pense que c'est un exemple quand même à suivre aujourd'hui, le Rwanda, je veux dire.
Le stand est juste à côté d'ailleurs du stand de RFI. C'est un hasard à Africa Tech, Viva Tech. Vous entendez évidemment le brouhaha autour de nous, parce que c'est un salon. Il y a énormément de monde pour découvrir l'innovation digitale. Alors on va en parler avec vous, Awa Traoré, 28 ans. Vous êtes venu en France pour vos études. Vous êtes malienne, vous avez grandi au Mali. Grâce à une bourse, vous êtes devenu ingénieur diplômé arts et métiers. Vous avez travaillé 4 ans dans l'automobile, aéronautique, énergie. Pourquoi vous êtes rentré au Mali, Awa ?
Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le soleil Bamako qui est très très chaleureux, qui me manquait. Mais au-delà de ça, j'avais envie de rentrer pour impacter sur le continent africain, dans mon pays d'origine. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. C'est un marché émergent. Il y a énormément d'opportunités pour les entrepreneurs, par exemple. Et aussi de faire partie de cette jeunesse africaine qui a envie de redonner au continent, qui a eu la chance d'avoir une bonne, de profiter d'un bon système d'éducation et qui redonne au continent et qui participe à l'édifice.
Alors vous avez cofondé avec un autre ingénieur, jeune ingénieur, Abdoulaye Maïga, Téliman, donc un service de moto-taxi un peu comme Uber, mais enfin vous l'avez dit, c'est beaucoup mieux, parce que vous avez 70 chauffeurs qui ne sont pas salariés
non.
Chez vous.
Ils sont des partenaires, c'est comme des indépendants. Ils travaillent avec nous, on crée le réseau, on les forme et on les accompagne en apportant du business à tout ce réseau-là.
Donc, l'avantage par rapport au fait d'être chauffeur dans l'informel ?
Alors, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, dans l'informel, en général, le chauffeur n'est pas propriétaire de sa moto. Il loue sa moto avec un particulier et il rembourse 2 à 3 fois le prix de la moto. Nous, il rembourse à son rythme. Il a déjà une moto de meilleure qualité, basse consommation, et il rembourse exactement le montant de la moto. Donc ça, c'est pas négligeable. Il a une formation, il a une assurance aussi en cas d'accident. Et il a tout un accompagnement pour lui apporter du business. Donc pour lui, c'est beaucoup plus profitable de faire du business avec Téliman, par exemple.
Ça veut dire que vous n'allez pas faire fortune sur le dos des chauffeurs, en
gros ?
Non,
voilà, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que lui, il puisse tirer son épingle du jeu et qu'il ne croule pas sous les dépenses, soit de maintenance de la moto ou que son activité s'arrête s'il fait un accident, par exemple.
Il passe des visites médicales ?
Oui, il passe des visites médicales. Il suit plus de 100 heures de formation à la sécurité routière. Il passe des formations à la relation client parce que c'est très, très important. Les gens, ils nous confient leurs enfants, par exemple, pour les amener à l'école, les ramener tous les jours parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils sont rassurés parce qu'il y a des chauffeurs professionnels qui le font, par exemple. Donc, c'est très important pour nous, la relation client.
Comment vous vous êtes lancé ? Comment vous avez fait ? Il y a des jeunes là qui vous écoutent, qui disent, bon, OK, elle a un diplôme, mais comment vous avez démarré ?
Ben, on est parti d'un constat. Hein. Dans toutes les capitales africaines, il y a le même problème. On a une croissance démographique énorme et on a des infrastructures de transport qui ne sont pas en phase. Il n'y a pas assez de routes. Il y a plein de zones isolées. C'est très, très difficile. Les gens passent des heures dans les embouteillages. Et le moyen le plus rapide que les Africains ont trouvé, c'est les motos. Parce que c'est pas cher, c'est rapide, c'est adapté aux infrastructures. Donc, on s'est dit, les motos, ça existe déjà. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients. Donc, on va apporter une solution en gardant tout ce qu'il y a de génial dans la moto sans les inconvénients. Et l'idée est venue comme ça. Donc, on a prospecté sur le terrain, on a fait une étude en collaboration avec d'autres entreprises qui étaient intéressées par le secteur de la mobilité comme CFAO Motors. Qui est une filiale de Toyota. Qui s'intéresse aussi aux mobilités.
Donc il y a une multinationale qui s'est intéressée à vous quand même.
Oui, qui s'est intéressée
en tout cas,
à vous. C'est
très important. Vous avez réussi à séduire une multinationale.
Ouais, et je pense que ça
qui a mis de l'argent dedans dans le projet.
Exactement, qui a cru en nous, qui nous ont incubés. Donc ça, ce point est très très important parce que sans eux, on n'aurait pas pu démarrer et réaliser aussi rapidement sur le terrain.
À 28 ans, Awa Traoré, vous vous retrouvez directrice générale d'une start-up à Bamako. Ça fait quel effet ?
Ben, ça fait un effet de fierté, mais aussi de beaucoup de challenges et des journées qui ne sont pas du tout ennuyeuses.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer de l'emploi pour les jeunes sur le continent, selon vous ?
Ben, pour créer de l'emploi sur le continent, il faut regarder les besoins du continent. C'est un marché émergent. Il y a énormément de possibilités sur le marché. Donc, créer de l'emploi, c'est simplement répondre aux besoins du marché. Nous, on répond à des besoins fondamentaux de transport de personnes. Et en un an, on est déjà plus de 70 personnes. Donc, il y a un réel potentiel.
Et ça va aller comme ça, crescendo, parce que vous refusez beaucoup de courses, en fait, aujourd'hui.
Oui, on refuse une course sur deux parce qu'on n'a pas assez de chauffeurs.
Une course sur deux, vous refusez. Donc, demain, Tiken Jafakoli appelle pour avoir une moto-taxi.
Entre 6h et 8h, il ne l'aura pas. Il faut qu'il réserve à l'avance. Parce qu'on a des heures de pic.
Je voulais juste poser une question à Awa. Est-ce que vos chauffeurs portent des casques ?
Oui, le casque, voilà, vous allez le voir sur Bamako, dans la circulation, ils ont même deux casques, un pour lui et un pour le client.
D'accord, ça c'est super parce que ça fait tellement de dégâts à Bamako.
Exactement,
Et c'est dommage. Voilà.
Non, ils ont tous des casques et justement c'est à ça qu'on les reconnaît parce qu'on est quasiment les seuls.
On met tous sur Dieu, mais il faut porter des casques.
Oui.
Voilà.
Ah, on est d'accord.
Voilà.
Le casque et Dieu, c'est ça.
Oui, exactement.
On a aussi des GPS sur les motos, donc ça nous permet aussi d'amener plus de sécurité.
D'accord, super.
Didier Akouete.
Non, mais ce que dit Awa est extrêmement important, c'est-à-dire c'est la phase d'incubation et d'accompagnement. Les jeunes Africains ne manquent pas de projets, ne manquent pas d'idées. Mais simplement, l'écosystème est tellement vide en réalité qu'il n'y a pas de structure qui pourrait pousser ces jeunes à aller beaucoup plus loin, à créer plus d'emplois. Et la chance qu'a eu justement, c'est d'avoir un grand groupe qui l'a incubé et a permis de développer son business beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a aussi une question d'expérience. Il y a des jeunes qui vont dire, mais qui n'ont pas forcément l'expérience. Et là aussi, le mentoring est quelque chose qui est indispensable pour accélérer le développement de ces startups.
Vous avez devant vous un marché qui est gigantesque. Mais en même temps, il va falloir que vous alliez très, très vite pour monter en puissance. Sinon, vous allez vous faire doubler, Awa.
Surtout, on va créer de la frustration. Aujourd'hui, on a une liste d'attente de personnes qui veulent s'abonner, qui n'ont pas de Téliman parce qu'on ne forme pas assez vite des chauffeurs pour répondre à cette demande-là. D'où la nécessité de lever des fonds et pouvoir satisfaire toute cette demande-là.
Donc,
qui est en attente.
Là, il manque du cash.
Oui,
encore.
Là, il manque du cash encore. L'objectif, c'est de passer de 60 à 300 chauffeurs d'ici 6 mois.
Wow.
Oui.
Ah oui. C'est super.
En fait, sur des marchés comme ceux de Awa, où le besoin est énorme, l'initiative comme celle-là va attirer d'autres acteurs. Donc Gao ne sera plus seul d'ici 3 ou 4 ou 6 mois, et c'est ça qui est bien, parce que ça permet de densifier le marché, et du coup, elle, de trouver encore des avantages concurrentiels pour aller plus loin.
Et on espère, après le passage dans l'émission, bien évidemment, Awa Traoré, démarrer une start-up dans un pays en conflit, Awa Traoré, y a plus confortable, non, quand même?
Oui, il y a plus confortable, mais il faut savoir que le cas du Mali est particulier. Le conflit, c'est vrai qu'il se ressent, mais il ne se ressent pas beaucoup à Bamako. Au nord, ça se ressent beaucoup, mais nous, la plupart de nos activités, c'est à Bamako. Alors, ça doit être beaucoup plus compliqué, je pense, pour les étrangers aussi et les expatriés sur place que les nationaux. Donc, oui, c'est compliqué, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas ça le plus compliqué. Ce n'est pas les plus grands freins. Il y a des freins ailleurs, dans l'administration, par exemple, faire avancer les procédures, c'est compliqué. Une start-up a besoin d'agilité, d'aller vite. Et dans les écosystèmes qui sont encore fragiles et qui démarrent, c'est compliqué.
Ouais. Tikhaine Jafakoli, vous avez quitté la Côte d'Ivoire au moment de la crise pour vous exiler au Mali. Aujourd'hui, c'est une autre crise qui vous a rattrapé. Pourquoi vous restez? Parce que vous entreprenez aussi en Côte d'Ivoire où vous avez enregistré le dernier album, mais vous restez envers et contre tout à Bamako?
Mais parce que j'aime ce pays, parce que j'ai été très bien accueilli dans ce pays. Je me sens bien là-bas. Et moi, je suis un panafricaniste. Je me sens bien partout. Je me sens chez moi, dans tous les pays africains. Donc, je suis accroché là-bas. Je suis au Mali. Mais là-bas aussi, j'investis, je fais des choses parce que j'ai construit une salle de spectacle, deux salles de spectacle et un studio d'enregistrement. Et mon grand rêve, c'est d'avoir une radio là-bas.
Donc, à Bamako
aussi.
Vous l'avez déjà à Abidjan.
J'ai déjà une radio à Abidjan. Et mon rêve, c'est d'avoir une radio à Bamako pour essayer de contribuer à la promotion de la culture au Mali. Parce que les artistes viennent faire du live dans les deux salles. Et j'aimerais faire la retransmission le soir, par exemple, de ce concert live pour que les gardiens qui sont devant les portes, enfin qui gardent les maisons, voilà, au lieu de dormir, ils peuvent écouter des concerts live.
C'est ça. Donc vous cherchez des investisseurs là, c'est ça? Vous lancez un appel?
Non, plutôt.
C'est l'endroit, hein, ici.
Plutôt une autorisation du gouvernement malien pour avoir la fréquence. C'est ce qu'il me faut. Après, je me débrouille.
Et à Abidjan?
Abidjan, il y a une radio aussi. Il y a une radio, deux salles de répétition, un studio d'enregistrement. On vient d'ouvrir une bibliothèque. Et puis bon, ça fait travailler les jeunes du quartier.
Et ça fait très longtemps que vous n'aviez pas enregistré un album en Afrique.
Hein. Oui, ça fait longtemps. Je crois que ça fait près de 20 ans que je n'avais pas enregistré d'album à Abidjan. Et cette année, je suis allé enregistrer, j'ai fait un casting. J'ai choisi un groupe parmi les jeunes Ivoiriens qui jouent du reggae. Et on a enregistré cet album-là, qui va sortir demain.
Ça sort demain, ouais, et bien sûr, vous êtes là pour en parler aussi, Tikhaine Jafakoli. Les voisins, allez, on vous l'offre, l'album de Tikhaine Jafakoli. Ça sort demain, il est chaud, comme le monde, mais nous, on a choisi plutôt Pourquoi nous fuyons chez 7 milliards.
Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? C'est le grand jour, t'as fait le tour. T'as dit au revoir la maman. Tu fais le sou, tu fuis l'amour. Tu cherches la liberté et les dollars. Tu finiras derrière des bars. La vérité pour les peaux noires. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? L'histoire n'est pas si belle que tu crois. L'eau froide t'attend, la pluie t'attend. Ni famille, ni amis, ni personne avec toi. La rue t'attend, la peur t'attend. La fraternité n'est pas celle que tu crois. Le racisme t'attend, la misère t'attend. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Forcé, t'es là.
Oluma boli chonya telela. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Tu vas chercher l'or, mais l'or est sous tes pieds. Africa, le trésor que tu as délaissé. Pourquoi tu fuis? Là-bas, c'est pas le paradis. Tu seras juste l'esclave de les paradis. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez? Nous fuyons. Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place?
Pourquoi nous fuyons, en avant-première, un des titres du 11e album de Tiken Jafakoli. On est en direct avec Tiken chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est au cœur de VivaTech, ce salon consacré aux nouvelles technologies à la porte de Versailles. Et on est au cœur de l'AfricaTech surtout. C'est celle qui va changer le continent. Alors nous, on n'est pas en compagnie de ceux qui fuient, mais de ceux qui restent, de ceux qui rentrent. Awa Traoré, 28 ans, malienne, jeune entrepreneuse. Fabrice Kofi, 28 ans, ivoirien, jeune start-upper également. Didier Akwete, le coach de tous les jeunes qui veulent entreprendre sur le continent africain. Et vous, Tiken, alors vous le dites dans la chanson, pourquoi nous fuyons, qui va mener la lutte à notre place? Mais Tiken, vous faites partie des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. C'est le dernier classement de Jeune Afrique, vous l'avez vu?
Oui, ouais. j'ai vu.
D'accord. Est-ce que ça sert à quelque chose d'interroger la jeunesse quand le désir de l'aventure est si fort, finalement?
Je pense que c'est important. C'est important de parler à la jeunesse parce que quelquefois, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ne partent que parce qu'ils ont vu des images. Ils ont vu des images de Paris, de Rome ou de Washington. Et je pense que c'est important d'attirer leur attention vers notre responsabilité à nous. Si nous voulons vivre dans une Afrique différente de la nôtre, de celle dont on se plaint, alors sinon, si nous voulons que nos enfants vivent dans une Afrique différente de la nôtre, je veux dire, notre place, ce n'est pas à l'extérieur. Nous pouvons partir, mais il faut revenir comme Awa pour participer au développement. Il faut revenir comme
Fabrice
et revenir pour apporter sa contribution. Parce que si on fuit parce qu'il y a des problèmes, si on fuit parce qu'il y a la corruption, si on fuit parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, etc., alors on reviendra 20 ans après, on va retrouver les mêmes problèmes. Et donc ça veut dire que nos enfants vont être confrontés aux mêmes problèmes que nous. Mais si nous on s'attaque aux différents combats, on peut leur alléger la tâche. Je parle des ancêtres dans cette chanson. J'ai dit que les ancêtres ont tout fait pour abolir l'esclavage. Que les parents sous la colonisation, au moment où la Côte d'Ivoire appartenait à la France, il n'y avait pas forcément de visa. Les parents auraient pu travailler rapidement, économiser, payer un billet et puis venir tous vivre en France. Mais ils sont restés, ils se sont battus pour nous donner la liberté. Et donc nous, on doit absolument faire quelque chose pour que nos enfants vivent dans une Afrique différente. Et donc c'est pas en partant qu'on peut, on peut avoir ce résultat-là.
Didier Akwete, vous avez fait ce choix-là depuis très longtemps aussi, à une époque où au contraire, tous les jobs étaient à l'extérieur du continent pour des cadres comme vous.
Non, c'est exactement ça ce que dit Tiken. C'est, on ne peut pas avoir un continent avec autant d'opportunités et puis laisser partir les gens du continent alors que l'idéal, c'est d'y rester pour développer ces opportunités. Et en 96, quand nous créions Afrique Search, effectivement, l'idée, c'était d'encourager les Africains à rentrer pour apporter leur expérience. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas vivre le mouvement inverse.
Ouais, à l'époque, on vous dit quand même à l'époque que vous êtes un peu dingue.
Ah bah, que nous étions fous, effectivement, qu'il n'y avait pas de compétences, qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'opportunités. Mais aujourd'hui, que c'est avéré qu'il y a des opportunités, que c'est le marché d'aujourd'hui, pas simplement de demain, c'est le moment d'encourager les jeunes Africains à y rester, à entreprendre, sous réserve, effectivement, des questions de gouvernance, de politique, dont Tiken parle si souvent. Et ce qui est paradoxal, c'est que je trouve que l'Afrique a énormément régressé en 40 ans. Contrairement à ce qu'on pense, quand on regarde la pauvreté, quand on regarde la paupérisation, les classes sociales qui se désagrègent, et même l'économie, malgré la croissance qui ne profite pas aux jeunes, C'est une vraie régression, y compris politique. Et c'est ça le vrai danger.
Attendez, vous nous dites, là, en direct sur RFI, l'Afrique a énormément régressé en 40 ans.
L'Afrique a énormément régressé. Vous savez, moi, j'ai grandi en Afrique.
Attendez, quand j'allais ça, à l'école... Vous dites ça aux petits frères, aux petites sœurs, aux start-upers qui sont là devant vous.
Mais justement, parce qu'ils sont une minorité sur ce continent. Vous voyez, ces start-upers qui sont dans les villes, elles profitent d'être incubées par ces fonds, mais les millions de jeunes Africains qui sont sur le continent sont désespérés parce que l'accompagnement public, la gouvernance publique fait défaut. Et quand je vous dis que moi, quand j'étais petit, j'allais à l'école à Lomé, on nous donnait du lait frais le matin quand on arrivait. On nous vaccinait tous les ans, gratuitement. Aujourd'hui, allez regarder dans les écoles où on livre du lait aux enfants, où on vaccine, où on donne des livres. Donc il y a une régression qu'on ne veut pas voir parce qu'on dit qu'il y a de la croissance. Et c'est normal que les Africains soient désespérés, parce que les images qu'on montre d'une Afrique qui croît et la réalité quand vous sortez des villes, c'est un désastre.
Donc tout ça, c'est du fake, là. Africa Tech, aujourd'hui...
Non, ça existe, mais c'est une minorité. Ce que je dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et quand vous voyez autant de jeunes qui veulent quitter l'Afrique, c'est parce que, justement, la forêt, on ne la regarde pas, on voit que les arbres qui poussent, comme mes amis start-upers, et pas les autres. Et donc, il faut qu'on prenne conscience. C'est un vrai danger.
Tikken, vous êtes d'accord? L'Afrique régresse depuis 40 ans?
Je pense que sur le plan réveil, il y a beaucoup de progrès. Les populations sont mieux réveillées aujourd'hui. Mais effectivement, il y avait des atouts avant qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'atouts qu'on avait quand on était ados.
Vous parlez de la gouvernance, du service public, des États?
Oui, il y a des choses qui ont régressé parce que, bon... La corruption a pris encore un élan qu'elle n'avait pas à l'époque. Je pense que ça freine beaucoup de choses. Mais je reviens pour dire que tout ça peut changer s'il y a une prise de conscience des populations et qu'on se mette ensemble pour bousculer un peu nos dirigeants. On peut rattraper des choses.
On vous fait confiance là-dessus, Tikken Jaffa Coli. Vous dites parfois que le reggae n'est pas une musique de réjouissance. Alors, est-ce que c'est compatible avec l'Afrique qui gagne?
Je pense que l'Afrique a besoin du reggae. L'Afrique danse déjà. Maintenant, elle a besoin d'une musique qui vienne lui éveiller les consciences, qui vienne lui dire voilà dans quelle direction on doit aller.
Il y a une mélancolie dans ce reggae quand même.
Le reggae a été
plus
toujours...
qu'une colère d'ailleurs.
Le reggae a été toujours, en tout cas, la voix des sans-voix. Le reggae a été toujours cette musique-là depuis Bob Marley qui a dit aux gens de se lever pour réclamer leurs droits. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. On dit, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place.
Tikken Jaffa Coli, on est en direct sur RFI, chez 7 milliards de voisins, au cœur de VivaTech, donc ce salon des nouvelles technologies, de la digitalisation du monde, des start-up, avec une belle place aussi offerte pour les start-up africaines au cœur de Africa Tech. Votre album, je l'ai entre les mains. La photo, elle a été prise dans un immeuble
à Bamako.
De Bamako.
Oui.
Vous êtes au centre avec la carte de l'Afrique en carton. Et puis, vous portez une veste bleu clair.
C'est une veste, que je pense que c'est une veste qui est plus âgée que moi, puisque c'est des vestes que les travailleurs portaient en Europe dans les années 60. Vous voyez que la manche est très courte.
Oui.
C'est pour éviter que voilà, on ait à tirer la manche et tout. On était au boulot. Et donc moi je portais cette veste-là pour montrer aussi le chemin du travail à nos frères africains. Parce qu'il faut dire que souvent on est un peu choqué par le manque de volonté d'aimer le travail, je veux dire.
Donc la veste d'ouvrier customisée version reggae quand même, un rasta avec le jaune, le rouge, la carte de l'Afrique. Ça fait un sacré mélange.
C'est assez moderne. Mais en fait, c'est le mélange de la tradition et de la modernité, en réalité, à travers sa veste. Et c'est ça, en fait, tout ce que l'Afrique doit arriver à concilier aujourd'hui, tradition, modernité.
Ouais. Et la valeur travail, vous aimez, vous, travailler, Tikken?
Vous êtes
un besogneux?
Moi, j'aime travailler. Je pense qu'il y a une phrase de Rastaman qui dit « Celui qui n'aime pas le travail mourra de faim ». Et donc, nous, on aime le travail. Je pense que pour que l'Afrique avance, il faut absolument qu'on apprenne à aimer le travail. Parce que souvent, on est confronté à des situations. Vous donnez un boulot à des jeunes qui vont mettre en priorité ce qu'ils vont gagner. Mais est-ce que celui qui m'a demandé de travailler sera satisfait? Je pense que c'est des questions que nos frères ne se posent pas très souvent. Et c'est dommage.
Allez, on retourne à notre standard, un message posté sur WhatsApp par un voisin, Gabin à Brazzaville.
Bonjour les voisins. Vous voyez, l'Afrique, c'est un continent très très riche et doté d'immenses potentialités. Et malheureusement, c'est l'Europe qui vient piller l'Afrique. Sinon, l'Afrique a tout. Bon, le plus souvent, il n'y a pas assez d'inventions. Il n'y a que des théories, mais sinon, c'est une Afrique qui réussit. Voilà, merci les voisins.
Alors, il n'y a que des théories sur le continent et pas assez d'inventions?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'inventions, seulement les gens n'ont pas de soutien. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de, de grandes expos organisées pour voir un peu, pour que les jeunes viennent exposer ce qu'ils sont en train de créer. Et il y a plein de jeunes qui ont des idées, mais les, voilà, ils ne savent pas où, où donner de la tête. Et je pense que nos dirigeants devaient organiser des expos comme ça, des occasions de rencontres.
C'est vrai qu'on n'ose pas souvent parler d'innovation sur le continent, on va plutôt parler d'inventivité. Alors, Didier à côté.
Il y a des innovations, mais comme le dit Tiken, c'est l'écosystème, l'environnement qui ne permet pas de faire émerger ces inventions. Quand vous allez dans les quartiers en Afrique, vous regardez les enfants, ils ont une telle capacité d'innovation. C'était dans un pays la dernière fois, dans un quartier, et un gamin de 12 ans avait inventé une sorte de petit tracteur qui était automatique avec des piles qu'il avait fait de briques et de brocs. Un gamin comme ça, vous lui donnez la capacité d'aller étudier et de mettre à profit son talent, mais il devient un génie demain. Et il y a plein de jeunes génies, mais malheureusement, l'environnement n'est pas favorable. Et quand je parle de régression, c'est également ça. On ne peut pas vivre dans des environnements qui ne sont pas, qui accompagnent pas les dynamiques, quoi.
Alors justement, on va parler de l'inventivité avec vous et l'innovation. Fabrice Coffi, 28 ans, ivoirien, vous êtes comptable de formation.
Oui.
Et vous avez eu cette idée de créer Kewa.
Oui,
c'est une application qu'on installe sur
une
smartphone.
Application mobile, oui.
Voilà, bon, ça a tout le monde là, le smartphone pratiquement aujourd'hui. Pour des commerçants, plus ou moins lettrés, plus ou moins éduqués, c'est pour avoir de la comptabilité adaptée à des commerçants qui ne sont pas allés au-delà du CM2, vous le disiez au début de l'émission.
Hein,
et on sait qu'aujourd'hui, quand même, l'achèvement en cycle primaire, c'est une vraie vision et un vrai objectif pour l'Afrique. Et comment ça fonctionne exactement?
Alors, l'application, elle est très simple. Elle a quatre fonctionnalités principales. Le commerçant, il va enregistrer chaque jour ses ventes, ses dépenses, gérer son stock de produits, gérer ses crédits, c'est-à-dire ses créances, les fournisseurs, les dettes qu'il contracte auprès des fournisseurs, les dettes qu'il contracte auprès des fournisseurs et les créances qu'il octroie à ses clients. Et avec tout ça, l'application va générer un rapport en temps réel de son activité. Donc à tout moment, le commerçant peut avoir une vision globale de son activité, avoir l'information financière en temps réel et pouvoir décider très vite. Et nous, grâce à de l'intelligence artificielle, l'application va aussi conseiller le commerçant. Donc, va lui permettre d'optimiser son activité.
Vous aussi, on le disait, Ouattraoré a été incubé, aidé financièrement également par une filiale d'une multinationale Toyota. Vous avez été aidé par une filiale de la Société Générale. Vous avez été repéré en tant que jeune start-upper innovant.
Oui. Oui, et là-dessus, je veux revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en Afrique, c'est vrai, je ne dirais pas qu'on régresse, mais on ne va pas suffisamment vite. On ne va pas suffisamment vite dans la mesure où nous avons eu de la chance de rencontrer Société Générale qui, depuis décembre 2017, a accepté de nous accompagner suite à un hackathon qu'il a organisé sur le parcours de vie de l'informel. Donc notre projet a tout de suite intéressé le groupe qui, via sa microfinance Manco au Sénégal, nous a accompagnés d'abord dans la structuration, dans le développement de l'application, a mis à notre disposition son réseau client. Donc nous avons été développer l'application avec les commerçants eux-mêmes. Donc c'est une application qui a été développée par les commerçants eux-mêmes.
Et en fonction de leurs besoins.
Effectivement, en fonction de leurs besoins.
Et aujourd'hui, vous avez un fichier de combien de commerçants qui utilisent cette application de comptabilité essentielle, hyper basique?
Alors, on est à une centaine de clients au Sénégal aujourd'hui.
Pourquoi au Sénégal alors que vous êtes ivoirien?
Alors, comme je le disais tantôt, c'est par je dirais pas opportunité, c'est pas opportunité, d'avoir rencontré Manco. Et donc nous avons développé l'application là-bas, au sein du Lab Innovation Afrique de Société Générale. Nous avons été accompagnés pendant 3 mois avec l'expertise, avec des experts de tous ordres qui nous ont aidés à développer l'application.
Et alors évidemment, c'est là où on voit bien, hein, vous êtes complètement panafricain. Là aussi, les start-up sur le continent africain, vous avez cette agilité de vous balader d'un pays à l'autre pour pouvoir ensuite faire grossir vos marchés. Qu'est-ce que vous faites des données personnelles de vos clients commerçants à qui vous installez le logiciel de comptabilité ultra basique?
Alors, la première chose que nous faisons avec les données, c'est de déjà apporter du conseil grâce à ces données à nos clients. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le client il a besoin de crédit. Donc, le client va nous autoriser, lors d'une demande de crédit, à fournir ses données à la banque pour mieux juger du niveau d'activité de ce client.
D'accord. Donc, tout le monde est content. La banque récupère des données de futurs clients pour les bancariser. Exactement. Et puis, eux, ils ont quelque chose à montrer. Ils ont une belle comptabilité bien tenue pour éventuellement avoir accès à du crédit. Hein.
Oui. Oui, en fait, d'un côté, on a la banque qui veut financer. De l'autre côté, on a des commerçants qui ont besoin de financement. Et entre les deux, il n'y a pas de traçabilité. La banque demande la traçabilité, le client n'en a pas. Donc nous, on va se positionner, on va créer le pont entre ces deux mondes pour permettre, pour vraiment le bien des commerçants, permettre de développer leur commerce.
C'est ça, c'est cette impression qu'il manque toujours un maillon, en fait, sur le continent africain. Hein. Il y a des éléments et puis il manque un maillon pour raccrocher tout ça, pour que ça fasse une chaîne qui fonctionne. Ticken.
Effectivement, je pense effectivement, mais c'est pourquoi c'est en tout cas félicitations. Parce que moi j'ai été commerçant avant d'être artiste, parce que voilà, mes parents voulaient pas que je chante, donc voilà, je pense que des applications.
Qu'est-ce que vous
comme
vendiez, Ticken?
Ah mais vous allez être surpris, moi j'achetais des œufs dans le nord de la Côte d'Ivoire et j'allais vendre dans une grande ville de Guinée qui s'appelle Cancan. Et j'attendais l'argent 2 semaines. Après la vente des œufs, je prenais l'argent, j'allais à la frontière de Libéria et Sierra Leone. Et la Sierra Leone, ces deux pays-là font frontière avec la Guinée. Donc il y a une ville qui s'appelle Guéguédou, j'allais là-bas et j'achetais des appareils électroménagers, des cassettes reggae, des pagnes de femmes. Donc je venais vendre à Odiné. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et voilà, parce que ma famille ne voulait pas du tout que je fasse la musique. Et moi, j'étais un enfant cool, hein, un jeune cool. Je ne disais pas non aux parents. Mais je faisais ça. Mais à côté, quand je venais avec les marchandises, à côté, je faisais mes répétitions. Jusqu'à ce que... Et ça marchait. Hein, mais comme je voulais mon indépendance et que je ne voulais pas être commerçant, je me suis arrangé pour ne plus faire de bénéfices. Et donc, la famille m'a appelé un matin. Ils m'ont dit, bon, on a l'impression que tu ne veux pas être commerçant. Et donne-nous les fonds et puis fais ce que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai repris le micro.
C'est ça. Voilà. Ticken Jafakoli, ancien commerçant raté par sa volonté de faire de la musique.
Exactement.
Pour le faire. Hein. On découvre une partie aussi de ce qu'a été votre vie avant d'être le roi du reggae. Cette Afrique inventive, cette Afrique qui invente aussi ce qu'on appelle un peu l'innovation frugale, c'est-à-dire... se mettre à la portée des besoins, en fait. Hein. Donc, des besoins de personnes qui ne sont pas suffisamment éduquées, à la portée du village aussi, mais pas seulement des grandes capitales.
Ah oui. Ah oui, je pense que c'est... moi, j'ai créé une association il y a quelques années où on a commencé à construire des écoles. Le but, c'est vraiment encourager l'éducation, encourager les enfants à aller à l'école. Parce que quand la majorité des Africains sera lié et écrit, je pense que ça va changer beaucoup de choses.
Ticken Jafakoli, vous dénoncez souvent dans vos albums la razzia des politiques sur les richesses du continent. Mais quel est votre regard sur aujourd'hui cette Afrique du business? Alors certes, cette Afrique minoritaire, vous le disiez Didier à côté, d'autant plus pour les PME qui sont formelles, mais sur un continent qui ne parvient pas à lever de l'impôt. Vous positionnez... du côté du peuple, hein, comme vous dites. Mmh. Mais quand on ne parvient pas à lever de l'impôt sur le revenu, parce que tout est informel, est-ce que vous trouvez que les entreprises formelles, elles payent trop d'impôts, pas assez d'impôts?
Je pense que... effectivement, c'est un gros problème. Parce que le fait que les histoires d'impôts, ce n'est pas très organisé en Afrique. Parce que ce sont les impôts qui peuvent permettre quand même souvent aux... aux dirigeants de faire de grands travaux comme on voit ici. Je pense que c'est un gros problème. Ouais. Maintenant, c'est un domaine que je ne maîtrise pas bien.
Vous marchez un peu sur des œufs, hein, voilà. Vous qui avez vendu des œufs.
Voilà. Et je ne maîtrise pas bien.
Prudent. À Ouattara,
par rapport aux impôts, je pense que les pouvoirs publics devraient essayer d'être plus dans une démarche de facilitation pour les gens qui veulent rentrer dans le formel. Par exemple, il faut que ce soit beaucoup plus rapide d'aller s'inscrire aux impôts, que les procédures soient beaucoup plus faciles. Il y a maintenant plein de start-up qui essayent de faire des applications pour qu'on puisse payer ces impôts, par exemple, beaucoup plus facilement.
Mais vous, par exemple, vous payez des impôts ou pas
oui,
encore
nous,
pour votre start-up ?
Oui, ça fait partie des éléments clés chez nous. C'est qu'on souhaite que le taxi-moto devienne formel et qu'il y ait des retombées pour les gouvernements. Donc, pour cela, chacun de nos chauffeurs a un statut et paye par an une taxe à l'État. Ce qui change par rapport à ce qui existe actuellement, en général, les taxis-motos sont informels. Donc, ça, pour les gouvernements, il n'y a pas de retombée fiscale. Donc, on croit beaucoup au formel et on croit que les gouvernements pourraient, s'ils misent sur la formalisation, à rendre les procédures beaucoup plus faciles pour les entreprises formelles, ça découragerait les gens à rester dans l'informel.
Didier à côté, oui.
Moi, je dirais sur les impôts en Afrique, en fait, nous avons une économie qui... Je dirais on a 3%, seulement 3% d'entreprises formelles dans nos pays. 97% de l'emploi se trouve dans l'informel. Alors, on peut faire deux choses. On peut continuer à pousser les 3% qui sont dans le formel à payer plus d'impôts, ou on peut faire un effort de sensibilisation, un effort d'éducation, un effort d'investissement, je dirais, sur les 97%.
Et qu'elles passent un peu plus dans le formel. Pour que celles qui sont déjà dans le formel soient un peu moins les vaches à lait. On entend beaucoup de PME dire on est les vaches à lait du pays.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, pour moi, il faut avoir une autre approche. Il faut avoir... L'impôt doit devenir la finalité de quelque chose. Ça ne doit pas être le début. C'est-à-dire qu'on a nos gouvernements qui cherchent à prélever de l'impôt tout de suite sur des gens qui ne gagnent pas de l'argent tout de suite. Je parle surtout de nous, les start-up. Il faut aujourd'hui investir dans ces startups, mettre des infrastructures, faire en sorte que ces startups puissent se développer. Et au bout de 5 ans, ces startups vont devenir de belles PME ou des multinationales qui vont pousser, qui vont tirer vers le haut les autres.
Ne nous tuez pas tout de suite. Laissez-nous exister un peu et croître.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Tikenja Jafakoli, on a beaucoup entendu ces derniers temps certaines voix pour dénoncer... Bon, bien sûr, le pillage des matières premières de l'Afrique, ça vous l'avez fait aussi dans vos albums, mais aussi maintenant le pillage culturel, le wax, les tresses que vous portez dans les cheveux. Quand Dior utilise du wax avec des artisans ivoiriens, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle pour vous ou pas ?
Je pense que si les conditions sont respectées, si ceux que les producteurs de ces matières premières sont rémunérés comme il faut, je pense que on pourrait dire que ces marques-là participent un peu à faire connaître les produits du continent africain. Je pense que c'est différent du pillage, à mon avis.
Tikenja Fakoli, vous avez plus de 50 ans, 50 ans et des poussières, on va dire. Comment on fait aujourd'hui pour... C'est pas seulement rester populaire auprès de la population et des jeunes, mais comment on fait pour rester un modèle pour la jeunesse africaine ?
Mais je pense, je le dis humblement, hein, c'est la constance dans ce que je fais. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse africaine a vu que d'album en album, le discours n'a pas été forcément dilué, le discours n'a pas été vendu. Et je pense que c'est ce qui a fait que je suis... Après 20 ans, je suis encore là.
Et aujourd'hui, les jeunes disent « Mais nous, on veut qu'on nous écoute. On veut avoir la parole et on veut avoir notre place. » Vous, qu'est-ce que vous apprenez de la jeunesse africaine aujourd'hui, Tikenja Fakoli ?
Ce que moi, j'apprends aujourd'hui, c'est que c'est une jeunesse qui est réveillée, qui est en train de se réveiller, qui a envie de s'exprimer et qui a envie qu'on prenne... son avis en compte. Et donc, je pense que c'est ce qui provoque aujourd'hui le conflit des générations.
Ils vous surprennent, là, les jeunes que vous avez à vos côtés?
Ah oui, ça, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de rencontrer.
Ou ils vous inquiètent, hein?
Non, non, ils me surprennent. Ils me surprennent parce que moi, j'étais à Bamako. C'est vrai que je suis à Bamako. Je ne savais pas qu'il y avait les mototaxis. Et je me suis demandé pourquoi quelqu'un n'a pas trouvé l'idée de faire ça, puisqu'il y a tellement d'embouteillages. Et donc, trouver des jeunes comme Awa.
Et les embouteillages, on n'a pas parlé de l'adressage. Mais comment on fait pour commander une mototaxi quand il n'y a pas d'adresse?
C'est-à-dire qu'on a toujours un endroit de référence, comme par exemple là où Tikenja habite. J'ai beaucoup de clients qui appellent, qui disent « Bon, venez me prendre, c'est pas très loin de chez Tikenja. » Une fois que le chauffeur arrive chez Tikenja, et ben c'est fait. Et c'est comme ça.
Voilà, c'est vrai qu'il faut continuer à entreprendre à Bamako. Vous allez ouvrir des salles un peu partout, comme ça.
Une petite histoire, il y a, vous savez, devant mon porte, il y a une carte Virgin Rouge. Et quand il n'y avait pas cette carte-là, Il y a eu un faux rendez-vous parce que ma coccinelle est toujours garée devant la porte. Ce jour-là, il n'y avait pas la coccinelle. Et il y avait un rendez-vous. Et l'indication, c'était la porte de Tikenja, il y a une coccinelle vert jaune rouge qui est garée. Et moi, j'étais sorti, j'étais allé dans ma ferme. Et le soir, je suis allé rendre visite à un ami dans le quartier. Et il y a son voisin qui sort, qui me dit, mais Tiken, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu trouves un symbole, que tu trouves quelque chose à mettre devant la porte, parce que tout le monde se réfère à ta maison maintenant. Donc quand il n'y avait pas la coccinelle, celui qui avait rendez-vous avec moi est reparti. Donc,
c'est bon. Exactement. Voilà. Didier Akwété, l'Afrique qui gagne aujourd'hui, après ce que vous nous avez dit, à moitié optimiste, à moitié pessimiste sur la régression du continent africain ces 40 dernières années, qu'est-ce que ça doit être l'Afrique qui gagne aujourd'hui dans ses priorités? En quelques mots.
C'est surtout les jeunes, vous savez, c'est 70 à 80% du continent. Donc c'est comment miser sur ces jeunes pour qu'ils soient les agents de transformation. D'ailleurs, quand vous regardez les revendications politiques, vous avez beaucoup de jeunes dans la rue qui aspirent à autre chose, à une autre Afrique. Donc l'Afrique gagne, c'est d'abord les États qui se réforment, qui acceptent de quelques règles de gouvernance et l'accompagnement des jeunes et surtout des femmes qui ont plein d'idées et qui ont simplement besoin d'un peu plus de support.
Ouais, il y en avait une aujourd'hui avec nous. Tiken Jafakoli, une dernière question avant de demander la route, vous êtes d'accord? Vous partez pour le paradis, vous retrouvez Bob Marley. Qu'est-ce que vous lui racontez de l'Afrique?
Mais je lui dis que l'unité dont il a parlé n'est pas encore là et que voilà, que l'Afrique est toujours divisée. Et voilà, ce sont ces nouvelles-là que je vais lui donner pour qu'il continue à prier pour nous du paradis, pour qu'on arrive à l'unité. Parce que nous sommes 54 pays. Et nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous sommes présentés souvent comme continent riche et souvent comme continent pauvre. Je pense qu'il y a un paradoxe. Et voilà, donc ce sont des nouvelles comme ça que je vais donner à Bob Marley.
Et puis vous lui dites aussi, Dieu nous attend et nous on attend
et
Dieu.
Et nous on attend Dieu.
Ça,
parce
c'est
que...
pas toujours très aimable. Hein.
Oui, non, je...
C'est une chanson qu'on va découvrir dans le 11e album. Merci à vous, Tiken Jafakoli. Vous êtes toujours chez vous dans la maison RFI, vous
Merci.
Qui êtes toujours tellement constant et fidèle, vous le disiez.
Merci.
On vous retrouve sur l'antenne de RFI. Vous m'en direz des nouvelles, couleurs tropicales, musique du monde. L'album sort demain, Le Monde est chaud. Merci à vous, Didier Akwété. Afrique Search, président directeur d'Afrique Search. Merci à vous, Awa Traoré, Téliman, Taxi Moto à Bamako. Et merci à vous, à Fabrice Kofi, Kewa, le logiciel de comptabilité pour les commerçants dans l'informel. Merci également à toute l'équipe, Bertrand Éclair, Romain Dubrac, Delphine de Dianous, Sigrid Azéroal. Demain, on se retrouve pour une autre émission.